Bien. Écoutez, il nous reste peu de temps. Puis il ne nous reste plus qu'une séance. Alors, je vous propose quand même d'étudier un autre passage du texte du Maharal. Je ne reviendrai pas sur le paragraphe d'hier matin, qui restait un peu inachevé, mais je pense que vous pouvez l'achever par vous-même. Simplement, je vous rappelle que nous étions arrivés à la page 3, au milieu du paragraphe, lorsque le Maharal indique que l'exil à proprement parler ne pouvait commencer qu'au moment, au stade où la génération de la famille de Jacob avait déjà 70 personnes. Vous vous rappelez de cela? Jusque-là, les différents niveaux, Abraham, Isaac, Jacob, les fils de Jacob eux-mêmes, sont des niveaux d'une telle grandeur qu'ils ne peuvent pas être atteints par l'éventualité de l'exil à proprement parler. Vous vous souvenez de cela? On le regrette donc, c'est le développement de cette idée dans la fin du paragraphe. Et nous avons été, enfin j'ai été extrêmement ambitieux de vous donner tout ce texte pour une petite semaine. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de, disons, de parenthèses qui étaient d'ailleurs nécessaires. Enfin, c'est jamais perdu. Et je me souviens qu'au moins une fois l'année dernière, nous avions réussi à lire tout le texte. C'est arrivé une fois. Oui. Attends, donc, je vous propose au moins d'étudier un des paragraphes qui indique au moins une partie de la réponse à toutes les questions que le Maharal avait posées. Et donc, nous étudierons le paragraphe de la page 4, qui commence par « Betuchal Lomar », ici. Je crois que ça a dû vous être indiqué. Et bien entendu, tout le reste du temps, s'il y a des questions, je les aborderai. Simplement, très rapidement, à la fin du cours de la semaine d'hier matin, on m'a posé une question sur l'exil de la parole. Je vais vous lire la question, c'est une question assez longue, et je ne pourrais pas la traiter, je voudrais y consacrer que quelques minutes à peine, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler. Ensuite, d'ailleurs, on poserait la vôtre. Et je vais essayer de le faire en relation avec notre sujet. Alors je vous rappelle que notre sujet était les causes de l'exil et non pas toutes les implications que la notion d'exil pourrait impliquer par définition. Et donc je restreindrai cela à notre sujet en particulier pour la cohérence de l'ensemble. Je vais simplement demander si on peut fermer la porte. Voilà donc ce qu'était la question. Dans son livre « L'exil de la parole », André Néer a longuement développé le silence du Créateur. Silence à quoi répond celui de la créature depuis Adam, en passant par Abraham, les prophètes, dont surtout Ézéchiel. Ça, j'ai pas très bien compris. Le silence de la créature, Adam, Abraham, Ézéchiel, eux ont parlé, les prophètes, eux ont parlé. C'était pas dans le silence. Pardon ?
Il y a eu des silences.
Il y a eu des silences. Bon, d'accord. Oui, justement. Le silence de l'homme semble être la contrepartie de cet exil de la parole dans lequel Dieu nous place à plusieurs reprises. Quel sens donner à ce double exil de Dieu et de l'homme, protagoniste d'un match dont l'enjeu fut souvent tragique, où est l'espérance? Je veux dire, c'est extrêmement vaste. Il faudrait d'ailleurs que ce soit M. Néer qui vous réponde, puisque vous traitez dans votre vocabulaire d'un texte que lui a écrit. Il y a assez longtemps que j'ai lu son livre, qui est un livre extrêmement attachant. Et l'impression que j'en garde par rapport à votre question, c'est que je me souviens que je n'étais pas d'accord avec le thème général du livre. Et parce que il y a un peu trop parlé du silence de Dieu, comme si Dieu n'avait jamais parlé. C'est cela qui me gênait, si je me souviens dans l'impression que j'ai eue. En fait, je vous citerai un vers d'un des poèmes de ma belle-sœur, la femme de Joël, qu'elle avait donné en exergue à une revue que nous avions éditée quand nous étions jeunes étudiants, il y a très longtemps, je ne vous dirai pas quand, vous seriez affolé. Et dans ce vers, vous avez peut-être entendu parler de la revue Targoum. Ça vous dit quelque chose? Bon, alors on avait choisi ce vers, un très beau vers d'ailleurs, en exergue, on dit, de la revue. Et si la voix s'est tue, l'écho n'est point tari. C'est pas de moi, c'est de Jocelyne Askenazy. Alors, c'est là, dans la famille. Et alors réfléchissez à cette idée. Et si la voix s'est tue, la prophétie est occultée, l'écho de la voix n'est jamais arrêté. Qu'on appelle la basse-côle. Okay? Alors il y a différents niveaux. Et c'est pourquoi c'est cela qui me gênait, qu'il n'y a jamais eu de silence de Dieu. C'est notre oreille qui n'arrive pas à capter suffisamment. Parce que si nous parlions d'un silence de Dieu essentiel, ça voudrait dire que Dieu n'a jamais parlé. Et vous savez la différence qu'il y a entre la religion de la Bible et toutes les autres religions. Dans toutes les autres religions, c'est l'homme qui parle de Dieu. Tandis que dans la Bible, c'est Dieu qui parle à l'homme. Et si vraiment cette parole a eu lieu, elle est toujours là. Il y a des conditions objectives, historiques, qui fait que la prophétie comme événement est occultée. Je vous le rappelle très brièvement, nous avons vu au début du séminaire, si je me souviens bien, les deux raisons, c'est que la nation d'Israël a été détruite, le poste récepteur a été détruit. Imaginez, je reprends cette image, c'est celle que j'emploie habituellement, imaginez que pour capter une émission, il faille un poste. De mon temps, c'était pas encore les transistors, c'était les lampes, vous vous rappelez, c'était plus déjà les lampes à pétrole, mais en fait c'était encore des lampes. Qu'il vaille 12 lampes pour que l'émission soit captée. 10 de ces 12 lampes ont été détruites et les deux autres sont en exil. Alors l'émission est là, mais la captation n'est pas possible. Je pense que c'est clair. Et la deuxième raison corollaire, c'est la dispersion de la nation d'Israël. Bien que la potentialité de la capacité prophétique reste dans le peuple juif, elle y reste comme potentialité, entre parenthèses, je ne sais pas comment dire, en éclipse. Parce qu'il ne peut y avoir de prophétie que sur la terre d'Israël. Et nous avons un principe très clair de l'enseignement de la tradition, c'est que seuls ceux qui sont nés sur la terre d'Israël peuvent être prophètes. Vos enfants ont toutes les chances. Enfin, pour les célibataires, enfin, pour ceux, oui, vous avez compris. Pour les autres, les petits-enfants. Et on peut dire, il y a des objections, Moïse n'est pas né sur la terre d'Israël. Seulement, son grand-père est né sur la terre d'Israël. Et son grand-père, c'était Jacob. Leur grand-père, c'était Isaac. Et c'est les Hébreux. Donc la prophétie ne peut réapparaître que lorsque les conditions objectives réapparaîtront. Mais ça ne veut pas dire que le silence de Dieu est un silence essentiel. D'autre part, c'était relié à une vision un peu tragique de l'histoire juive. Or, je dois moi-même, personnellement, à M. Neher, c'est le premier texte que j'avais lu de lui, juste après la guerre. C'est la raison pour laquelle le premier voyage que j'ai refait en France après la guerre, c'était pour aller le rencontrer à Strasbourg, pour savoir qui était ce juif qui savait écrire si bien. C'est un texte qui expliquait qu'il n'y a pas de tragédie dans la conscience juive, il n'y a pas de dimension tragique. Il peut y avoir une dimension dramatique. Le drame, c'est difficile à porter, mais il n'y a pas de tragédie. La différence, je l'ai mieux comprise à la suite de la lecture d'une thèse d'un grand sociologue d'origine juive, qui était marxiste, qui s'appelait, si je me souviens bien, Lucien Goldman, et qui a écrit une thèse sur le Dieu caché de Pascal. Vous vous souvenez de cela? C'est bien Lucien Goldman. Je crois qu'il est mort depuis. Et il a très bien expliqué ça, la différence entre le drame et la tragédie. Le drame, c'est difficile, mais il y a une solution. C'est ce qu'on appelait le Deus Ex Machina chez Corneille. Tandis que la tragédie, il n'y a pas de solution. Et c'est pourquoi ça se répète, ça se récite. Et ça s'achève par le vers célèbre de Racine, c'est la différence Racine-Corneille. Et maintenant, madame, je vais rentrer dans mes appartements. C'est pas un vers exact, ça doit être à peu près ça. Et ça veut dire rentrer dans ses appartements. Ça veut dire on rentre dans les coulisses et puis on va recommencer la même chose et il n'y a pas de solution. Vous voyez à peu près là. Ce sont deux atmosphères très différentes. Alors, la conscience grecque est tragique. La conscience juive n'est pas tragique. Elle est optimiste. Elle sait qu'il y a une solution. Et c'est M. Neher qui avait écrit, dans une préface au livre de Ruth, à la traduction du livre de Ruth, un très beau texte d'ailleurs, qu'il n'y a aucun livre de la Bible qui ait une dimension tragique. Par la suite, après la réflexion, les années de réflexion qu'il a eues sur Auschwitz, et parallèlement sur le livre de Job, il y a quelques dimensions de la conscience tragique qui se sont introduites dans l'œuvre de missionnaire. Vous comprenez? Et il est possible que c'est cette atmosphère-là que vous retrouvez. Mais en tout cas, nous en parlons souvent à Jérusalem, quand nous avons l'occasion, malheureusement trop rare, de nous rencontrer. Et sur ce point, je ne pourrais pas être d'accord. S'il y a une impression de tragique dans ce problème, alors il faut nuancer tout cela. Je ne peux pas vous répondre trop directement. Moi, je ne serais pas d'accord avec cette expérience. Je crois que la seule conscience qui ne peut pas être tragique, c'est la conscience hébraïque. Bon, c'est un sujet pour lui-même, mais je voulais vous l'indiquer. Les mots ayant leur sens simple, bien sûr. Mais je reprends cette expression de l'exil de la parole, parce qu'elle se rattache au thème de la sortie d'Égypte, qui est le thème de Gvurot Hashem, du Maharal. Et en vous l'expliquant très très rapidement, par rapport à une expression de la Haggadah de Pessah, qui dit que Jacob, le patriarche, est descendu en Égypte, Anus Alpi Adibur, obligé par la parole. Je reprends la traduction. Anus Alpi Adibur, obligé par le verbe, par la parole. Quelle parole? L'explication habituelle, et elle est exacte, c'est par ce verset que nous sommes en train d'étudier, qui a été dit à Abraham, savoir tu sauras que ta descendance sera exilée dans un pays qui n'est pas le leur, etc. Que cette parole-là a obligé Jacob à descendre en Égypte. Et je donnerai deux dimensions d'explication du Midrash à ce sujet, qui se rattachent à nos analyses. Première, c'est un enseignement de la Gemara, du Talmud, qui dit que si Jacob n'avait pas voulu descendre en Égypte, il aurait été descendu de force, enchaîné dans des chaînes de fer. Vous connaissez cela. Pour lui éviter cette difficulté de l'exil, alors la stratégie de la Providence a fait que Joseph est descendu pour préparer l'arrivée de Jacob en gloire. Vous comprenez cette première dimension. Et pourquoi y a-t-il cette nécessité de Jacob de descendre en exil? Pourquoi il fallait que fatalement cette parole à Abraham se réalise? Alors là, c'est important de le comprendre. Étant donné que les causes profondes que nous analysons avec le Maharal ont joué, alors la sanction devait arriver. La conséquence devait arriver. Si les causes profondes n'avaient pas joué, ce verset se serait résorbé autrement. Et il aurait resté écrit comme il est écrit, mais il se serait réalisé dans l'existence autrement. Le commentaire, la lecture aurait été différente du même verset. Pour le dire plus précisément, si les causes qui faisaient que l'exil devenait nécessaire n'avaient pas joué, alors l'exil n'aurait pas été nécessaire. Et le verset de cette éventualité de l'exil aurait été résorbé dans un autre midrash. Je pense que c'est clair. Bon. Et l'explication de la Kabbale sur cette phrase de la Haggadah est à un autre niveau et concerne notre sujet. On dit « Dieu a créé le monde par sa parole ». Et donc, depuis la création du monde, la parole de Dieu est en exil. Et l'expression « l'exil de la parole » qui vient de la Kabbalah a d'abord cela comme ça. Le créer fait que la parole de Dieu est exilée. Et par conséquent, ceux qui sont capables de délivrer le message de la parole doivent aller là où la parole est en exil pour la délivrer. Mais très exactement comme on dit en français, délivrer un message. Alors cette parole qui était en exil, elle était en exil parce que les gosiers, les bouches, de la civilisation égyptienne étaient incapables d'en délivrer le message. Il a fallu que les Hébreux aillent là où cette parole était en exil pour la parler, pour la délivrer. Par exemple, Moïse, qui devient le porte-parole de la parole de Dieu, est connu avant la sortie d'Égypte comme quelqu'un qui ne peut pas parler. Il faut la sortie d'Égypte pour qu'il puisse commencer à parler. Et dès qu'il est à la sortie d'Égypte, alors il parle. Mais jusque-là, il ne parle pas. Pas parce qu'il n'a rien à dire, parce qu'il a trop à dire, et qu'il n'y a pas les mots encore pour dire ce qu'il fallait dire. C'est l'inverse. C'est-à-dire, et donc cette parole qui est en exil oblige Jacob à descendre pour que le message soit délivré, si j'ose dire. Dans un autre vocabulaire, ça veut dire qu'effectivement, il y a des valeurs perdues, vous rappelez le rechouch, il y a des valeurs perdues, il faut aller les délivrer, il faut aller les sauver. Alors je termine sur ce point. C'est l'exil de la parole qui oblige Israël à aller en exil pour délivrer la parole. Voilà donc quel est le thème de la Kabbalah à ce sujet. Ça ne veut pas dire que Dieu se tait. Ça veut dire que nous ne savons pas parler. Ce n'est pas la même chose. Et la Kabbalah l'indique de cette manière. Paro, le pharaon, Paro, c'est les mêmes lettres que les deux mots Péra, la bouche mauvaise. Péra. Je vous donne les lettres. P et Rejhaïn. Pesah, c'est la bouche facile. Pesah. La bouche qui peut parler. Et donc, quel est le thème? Tant que c'est le pharaon qui est souverain, la parole ne peut pas être dite. Alors il faut Pesah, la délivrance, pour que la bouche puisse parler. Donc c'est le même thème. Alors c'est exactement cela. Tant qu'Israël est en exil, la parole est en exil. Quand Israël revient de l'exil, la parole n'est plus en exil. On a délivré le message. Entêté, mais sage. Qu'est-ce que vous voulez ?
Ça n'implique pas nécessairement qu'on n'en sortira pas tant qu'on n'accepte pas tous les messages d'Israël, leur forme.
Là, vous complétez de façon un peu inversée. C'est-à-dire, tant qu'Israël ne sera pas capable de parler toutes les paroles du monde, la parole ne peut pas parler. Ici, nous sommes dans le thème de la fonction de l'exil. S'initier au véhicule de délivrance des paroles. On l'a dit de Joseph dans le Midrash, Joseph a le don des langues. Ce qu'ensuite la tradition chrétienne va attribuer aux apôtres. Les langues de, vous rappelez, de
Pentecôte.
Alors, Joseph est présenté dans le Midrash comme étant celui qui est capable de parler toutes les langues du monde. C'est un thème très important. Je crois qu'il y a une espèce de capacité de linguiste